avril de 14h à 15h avec Christophe Ondelat. C'est la fin de votre libre antenne de ce soir. On se retrouve demain à 22h15 jusqu'à 1h du matin, toujours avec le même plaisir. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et retrouvez tout de suite Marlène Duré avec vos programmes de la nuit.
Merci Valérie, je vous souhaite une bonne nuit. Une heure, Europe 1 n'a pas sommeil. Et nous allons maintenant cheminer aux côtés de Christophe Ondelat avant de rejoindre un petit peu plus tard Pascal Pro, puis Olivier Delacroix et enfin Sophie Davant. Nos émissions se redécouvrent la nuit et je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 6h.
Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
En mai 2020, à Lyon, Benjamin Cotu s'avoisine de palier d'un coup de couteau. Et son mobile est incroyable. Elle fêtait la fin du confinement. Il ne supportait pas qu'elle fasse du bruit. Ouvrons ensemble la côte B du dossier d'instruction de Benjamin Co.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Dans le système judiciaire français, le dossier d'instruction contient un sous-dossier appelé côte B. Il rassemble les rapports des experts psychiatres, psychologues et de l'enquêteur de personnalité. Ouvrons l'un de ces dossiers.
Ondelat raconte. Côte B sur Europe 1.
Le 16 mai 2020 à Lyon, Benjamin Co, 39 ans, appelle la police. Il est excédé. J'en ai marre. J'en peux plus du bordel qu'ils foutent au-dessous. C'est toujours chez Roman. J'en ai marre, vous comprenez, je vous ai déjà appelé X fois. Vous pouvez faire quelque chose pour qu'ils se taisent. C'est pas parce que c'est la fin du confinement que les gens peuvent se permettre de faire n'importe quoi. Si vous faites rien, eh ben je m'en charge. Quelques minutes plus tard, ce sont les amis de Roman qui appellent les pompiers.
Pompiers, j'écoute.
Il y a un voisin qui a planté un coup de couteau dans la chambre de ma copine. Vous pouvez venir, s'il vous plaît. On est dans le troisième, à Lyon.
Et est-ce qu'elle saigne?
Oui. Oui, ça saigne encore.
Ok, vous prenez un linge. Vous appuyez sur la plaie. Et vous la stimulez. Vous appuyez très fort sur la plaie. Mettez-lui les jambes en l'air. Les pompiers sont en route.
La vie sociale va reprendre, donc, mais là encore, progressivement. Il sera à nouveau possible de circuler librement, sans attestation. Au fond, ce que je vous propose de rétablir, c'est un régime de liberté dans lequel nous devons fixer des exceptions.
C'est une super nouvelle. Ça va nous faire tous plaisir, va tous nous réchauffer le cœur de nous retrouver. Une bière, de la musique, quelques amis. C'est la soirée importante, la soirée des retrouvailles. Et ça fait du bien de se dire que maintenant, c'est... à portée, quoi.
C'est le moment où on vient d'annoncer le déconfinement. Je suis sur ma terrasse dehors et je vois apparaître donc le nom de mon ami.
Jean-François Julien, avocat de la famille de Romane Dufour.
Et puis c'est le choc. Et là, vous avez tout qui tombe sur les épaules. C'est dur de passer en fait d'un moment où vous êtes heureux de retrouver des amis, de déconfinement, etc., à une masse qui tombe sur vous en pensant qu'il y a des gens qui sont en train d'assister et d'attendre la mort de leur fille. Puis on a envie de les assister, on a envie de les soutenir.
Romane Dufour a reçu un coup de couteau dans l'artère iliaque gauche. Pronostic vital incertain. Après 2 jours d'hospitalisation, Romane Dufour décède. Elle avait 21 ans.
Et je peux vous dire que c'était une chape de plomb qui tombait sur le cabinet. Et lorsque la maman de Romane m'a appelé pour me dire « c'est fini », je peux vous garantir que dans le cabinet, ça a été un silence pendant un long, long, long moment. On a eu beaucoup de mal à digérer le décès de cette jeune fille. D'habitude, il n'y a pas trop d'affect, on met de la distance, même si évidemment c'est difficile pour un avocat. Là, le problème, c'est qu'on n'enlève pas l'affect. Et ce que vous pouvez expliquer plus ou moins froidement à des gens qui sont des clients lambda du cabinet, c'est beaucoup plus difficile de l'expliquer à des gens qui, d'abord, vous connaissez, qui sont en plus d'une gentillesse extraordinaire.
C'est l'un des drames de la fin du confinement. Un homme de 38 ans a tué sa voisine d'un coup de couteau. En garde à vue, il aurait indiqué qu'il ne supportait plus les bruits qui provenaient de l'appartement de sa voisine. Cet homme est inconnu des services de police et il n'a aucun antécédent judiciaire.
Pourquoi est-ce que vous l'avez tué ? J'en pouvais plus de ces bruits. Alors je voulais que ça cesse. Et pour lui faire peur, je suis descendu avec un couteau de cuisine. J'ai tapé à la porte, j'ai crié, j'étais énervé. Elle m'a ouvert, j'ai avancé vers elle et le couteau s'est enfoncé en elle. Elle a dit que j'étais fou, enfin je sais plus quoi. Mais je pense que c'est ce qu'elle a dit.
L'auteur des faits est quelqu'un que l'on ne remarque pas.
Éric Mazot, avocat général.
Un voisin extrêmement discret, presque passe-muraille. Bonjour, bonsoir. Et il y a quelque chose de terrifiant ou de glaçant de considérer que ce voisin puisse sortir de chez lui, sonner à votre porte, vous planter un couteau jusqu'à la garde dans le corps, menacer vos amis, rentrer chez lui et ensuite nettoyer le couteau, le reposer à l'endroit où il était, dans le tiroir de la cuisine, et reprendre une partie de Scrabble là où elle était commencée. C'est terrifiant.
Je me suis dit, c'est pas possible. Lorsque je lisais ça, je me disais, ce type, il y a un problème psychiatrique derrière extrêmement important. Et j'avais commencé d'ailleurs à préparer un petit peu la famille de Roman en disant, écoutez, la façon dont ça s'est commis, je m'interroge sur la responsabilité pénale. Je me suis vraiment interrogé sur la responsabilité pénale.
C'était au début vraiment de mon exercice et je faisais encore à cette époque-là des permanences garde à vue.
Léa Forest, avocate de Benjamin Co.
Je me souviens avoir eu la coordinatrice garde à vue, donc c'est un autre avocat qui coordonne un peu l'action des avocats qui interviennent en garde à vue, qui m'a dit, là on est sur un truc un peu gros, si tu veux prendre le dossier, donc bien évidemment j'ai accepté et je me suis rendue immédiatement après en garde à vue. Quand on rencontre toute personne qui est placée en garde à vue, on se trouve dans un bureau, bien évidemment, c'est confidentiel. Il n'y a rien d'autre qu'une table et mes affaires personnelles si j'ai besoin de quoi noter, etc. On a le droit à un entretien de 30 minutes avec la personne gardée à vue. Donc parfois, ça se déroule en 5 minutes parce que n'y a pas grand-chose à dire. Et c'est rare quand j'utilise les 30 minutes aussi. Mais je pense que lui, on a bien mis 30 minutes, voire même peut-être un peu plus, parce que parfois, ils accordent 2 ou 3 minutes en plus. Mais je pense qu'on a bien mis 30 minutes à s'entretenir pour avoir le temps de se comprendre. On se demandait un peu qu'est-ce que cet homme faisait ici. Parfois, on arrive à comprendre de par le comportement ou de par les gestes ou la parole, mais on arrive vite à voir si c'est complètement fou ce qui se passe ou pas. Et là, ça l'était complètement parce que justement, il était beaucoup replié sur lui-même. Dès qu'il a essayé de s'exprimer, il bégayait et vraiment, il a des troubles visuels. Donc, en plus, j'ai vite compris, avant même qu'il me le dise et que je mesure l'ampleur, qu'il me voyait pas forcément, qu'il me discernait pas exactement, à part savoir que j'étais une femme parce qu'il m'entendait. Je pense qu'il a mis du temps après à me reconnaître et à savoir qui j'étais.
Code B17. Enquête de personnalité d'Axel Rocher. Benjamin Co est atteint d'une amblyopie de naissance, un handicap visuel pour lequel il est reconnu adulte handicapé à 80%. De plus, à la suite de 2 accidents, Benjamin Co n'a plus la capacité de se déplacer aisément et normalement, ses 2 genoux ayant été atteints.
Ça se voit qu'il n'a pas de simples lunettes pour corriger un petit handicap visuel. Et en fait, on était dans la période Covid encore. Les surveillants donnaient à tous les détenus qui rentraient dans le parloir avocat des petites lingettes pour s'essuyer les mains. et il s'est essuyé les mains et il voulait jeter cette lingette dans la poubelle qui était vraiment, enfin c'était le seul objet dans la pièce dans laquelle on était. Et j'ai compris qu'il ne voyait absolument pas la poubelle dont on lui parlait, qui était assez grosse, qui avait un sac noir en plus, donc assez visible. Et là, je me suis dit, d'accord, je comprends qu'il ne voit absolument rien, parce que j'ai dû du coup apporter la poubelle à hauteur de sa vue à lui et à 2 cm de son visage. Et après, je l'ai vu aussi son handicap, parce que tant qu'il m'entendait pas parler, il savait pas à qui il venait le voir.
Alors dites-moi, monsieur Coe, quels sont vos souvenirs de ce soir où vous avez tué cette jeune femme ? Eh bien, maître, elle faisait trop de bruit. Alors j'ai pris un couteau pour leur faire peur et je suis descendu les voir. En arrivant devant la porte, j'ai sonné. Une personne a ouvert, je pense que c'était une femme, mais j'en suis pas sûr. Je vois pas bien. C'est pas évident de voir, pour moi. Je lui ai demandé d'arrêter tout ce bruit insupportable. Et en même temps, j'avançais avec le couteau. J'ai pas réalisé que le couteau entrait dans cette fille. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas senti.
L'expert judiciaire ORL,
Éric Mazeaud, avocat général,
nous a indiqué qu'il était faux de considérer que les déficients visuels avaient pour habitude de développer d'autres sens, et en particulier celui de l'ouïe. Ça, c'est une réflexion du commun, mais pas du tout pour cet expert, hein, qui explique que ça n'a strictement rien à voir et que M. Benjamin Coe, au contraire, souffrait également d'une légère surdité. Ceci étant dit, on n'a relevé aucune particularité chez l'intéressé au niveau des capacités auditives. Donc aucun trouble de l'audition susceptible de provoquer des réactions violentes. On n'a aucun phénomène de type hypoacousie, de type acouphène. Et on est même allé chercher, j'ai posé la question de la haine du bruit, ce que l'on appelle la misophonie. Mais c'est un phénomène psychique ou neuropsychique, hein, susceptible de générer une telle violence. Elle m'a dit non, pas du tout, nous étudions, hein, également, bien que ce soit du ressort de la psychologie, ces phénomènes de misophonie, et M. Benjamin Coe n'en est pas atteint.
La voisine du dessous faisait bien du bruit ce soir-là. En revanche, il est le seul voisin à dire que ce bruit était insupportable. Les autres disent que c'était un fond sonore pas incommodant.
Il n'a pas un délire de persécution, il n'invente pas le bruit. Le bruit, il est bien réel.
Docteur Jean Canterino, expert psychiatre.
Il ne pense pas que les voisins font un complot pour lui gâcher sa vie. Vous voyez, il n'y a pas d'élément délirant. Pour moi, il n'y avait pas d'altération du discernement, ni d'abolition. Parce qu'il n'y a pas de pathologie psychotique, c'est pas quelqu'un qui est traité, pas schizophrène, il n'y a pas de délire de persécution.
Code B12, expertise psychologique de Xavier Renaud. Benjamin Coe déclare avoir pris connaissance de son passage à l'acte une fois retourné chez lui. Il nous dit, en remontant chez moi, j'ai vu qu'il y avait du sang sur le couteau, je ne l'avais pas vu avant. Alors j'ai lavé le couteau et je me suis assis pour me détendre et faire un scrabble sur l'ordinateur. C'était un immense soulagement d'avoir enfin le silence. La musique était coupée. C'était un soulagement incroyable.
Il parle, on va dire, normalement, même si le terme normal a mauvaise presse. En revanche, ce qui est très, très étonnant, c'est la distance entre ce qu'il raconte de façon factuelle, parce qu'il y avait du bruit, il a quand même tué quelqu'un, et il raconte ça comme si c'était un litige banal. Il y a un contraste qui est tout à fait saisissant entre finalement la normalité de son expression et l'anormalité, mais avec un apostrophe, de ce qu'il a fait. Et ça, c'est pas normal. Il est très désaffectivé, très froid, pour parler plus simplement. On peut un peu le comparer à un ordinateur, si on veut.
Est-ce que c'est possible de fonctionner comme ça et d'aller bien? Oui, jusqu'à un certain point. Mais le plus probable, c'est qu'un jour, tout ça se casse la figure. Et que ça se casse la figure, soit sur le mode de la dépression, soit sur le mode du passage à l'acte. Et chez M. Co, ça a été sur le mode du passage à l'acte. Chez M. Co, tout le système, le château de cartes s'est effondré au moment des faits. Il n'est pas capable d'être en relation avec les autres. Oui, mais les autres, ils existent.
Code B12. Expertise psychologique de Xavier Renaud. Benjamin Co présente une personnalité clivée, marquée par d'importantes défaillances narcissiques et identitaires. Il présente également d'importants troubles de la relation et de la socialisation, associés à une forte introversion et des difficultés de discrimination et de perception de ses propres vécus émotionnels et de ceux d'autrui.
Monsieur Co, c'est une personne qui ne peut pas, je dirais, être en relation avec les autres. Il n'y arrive pas. Et la meilleure preuve, c'est que quand je le vois, il a 39 ans, il n'a jamais eu de rapport sexuel. Il n'a pas de vie affective. Je pense qu'il n'a pas de vie amicale. Alors, me demandez pas à partir de quel âge l'entrée dans la vie sexuelle est tardive, ça je pourrais pas vous le dire, mais 39 ans, il y a un problème. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est isolé. Alors, on fait souvent le procès aux psy de tout ramener au sexe, mais peut-être parce que tout simplement, ils sont plus francs que les autres. Le sexe, c'est très important, la vie sexuelle. On peut avoir une vie sexuelle épanouie que lorsque on est suffisamment mature. Il faut avoir suffisamment grandi de façon psychique. C'est donc très important. C'est le stade ultime du développement. Et quand un psychiatre ou un psychologue parle de sexualité, il ne parle pas que de l'acte, il parle aussi et surtout d'ailleurs de toute l'affectivité. On peut penser que le confinement allait dans le sens de ce repli ou de cette impossibilité à être en contact avec les gens. Et que ce bruit là lui a amené sous le nez une réalité qu'il ne peut pas gérer. En plus, c'était une fête tout à fait sympathique, c'est-à-dire, il y avait aussi, on peut peut-être ici imaginer qu'il avait quelque chose qui n'était pas supportable, c'est des gens qui, eux, savent se faire plaisir. Parce que lui, il ne sait pas faire, sauf de façon très intellectuelle avec le Scrabble et les échecs. Voilà. Il y avait peut-être aussi ça, eux ils arrivent à se faire plaisir, moi je sais pas faire. En plus, les échecs, ça a quelque chose de très impersonnel, c'est-à-dire si vous faites le bon calcul, ça marche forcément, c'est le contraire de ce qui se passe dans la vie.
Chez lui, c'est finalement l'univers où il joue. Mais attention, chez Monsieur Benjamin Keu, le jeu n'a aucune dimension ludique. C'est une discipline qui exige silence et concentration, échec et Scrabble. Donc, les autres, ben, ce sont ceux qui font du bruit.
Benjamin Co était un contrôleur de gestion à la vie austère. Avant le confinement, il côtoyait uniquement ses collègues de travail et les membres de ses clubs d'échecs et de Scrabble, à la moyenne d'âge canonique.
Son appartement, c'était l'appartement d'un célibataire.
Léa Forest, avocate de Benjamin Co.
Qui n'avait pas d'appétence particulière pour peut-être la décoration, c'était extrêmement bien rangé à son habitude, mais c'est surtout ça qui marquait, c'était que c'était très rangé.
Éric Mazot, avocat général.
Moi j'ai vu des photos hein, évidemment de cet immeuble et notamment le tiroir de la cuisine dans lequel il avait rangé l'arme du crime après l'avoir nettoyée. Et là aussi, encore quelque chose de glaçant, dans la mesure où l'arme rejoignait les autres instruments de cuisine qui étaient
rangées, les cuillères, trois cuillères, étaient enchâssées les unes dans les autres. Les fourchettes, trois fourchettes, étaient posées sur le dos, les pointes à l'envers. Les couteaux, trois couteaux, étaient déposés, la lame, sur le même côté. Et se dire que l'arme du meurtre était reposée dans ces conditions aussi précises, avant que l'on reprenne une partie de Scrabble, c'est très impressionnant. C'était véritablement un univers millimétré. Pas de superflu, aucun superflu, aucune décoration. Monacale, enfin spartiate, plus exactement. Rien ne ressortait de particulier, sinon les trophées gagnés au Scrabble et aux échecs.
Code B12. Expertise psychologique de Xavier Renaud. Benjamin Co présente dans tout son parcours une incapacité à mettre en forme et à traiter la conflictualité et l'agressivité. Il souffre d'une grave problématique d'affirmation de soi, en particulier dans ses relations à autrui et dans l'expression de ses désirs et de son mécontentement. On peut penser que les faits apparaissent comme la première tentative d'affirmation conflictuelle et agressive de Benjamin Co. La violence de la décharge par l'acte semble ainsi le produit d'une accumulation de frustration.
Son histoire personnelle, on la connaît finalement que très peu parce qu'il a été assez taisant sur ça tout le long de l'instruction parce qu'il considérait que son histoire personnelle n'avait absolument aucune influence sur les faits et qu'elle n'intéressait personne. Et il se demandait un peu pourquoi on venait lui poser ces questions-là. L'avocate que je suis lui rappelait que c'était parce qu'il fallait, pour bien juger quelqu'un, prendre en considération sa vie et son évolution.
C'est un enfant qui a été adopté à 6 ans.
Docteur Jean Canterino, expert psychiatre.
Avant ça, il vivait en Corée. Après l'adoption, on ne trouve aucun élément traumatique. Avant l'adoption, eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas parce que, et je pense que c'est vrai, il dit qu'il n'a aucun souvenir. Or, et ça tout le monde le sait, pas besoin d'être psychiatre, on a des souvenirs avant l'âge de 6 ans. Hein. Ça commence vers les 3 ans, on va dire. Hein. Donc, s'il n'a pas de souvenirs, c'est que les souvenirs étaient peut-être très mauvais et qu'il n'a pas pu faire autrement que de les refouler. Quand je parle de refoulement, c'est pas quelque chose de conscient. Son cerveau le protège de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que s'il y a eu des éléments traumatiques, ça a freiné son développement psycho-affectif. Et je pense que toute sa vie, il s'est protégé de ça en essayant d'avoir le moins de relations possibles avec les autres.
Code B17, enquête de personnalité d'Axel Rocher. Benjamin Co n'a jamais souhaité identifier sa famille biologique. Madame Co, sa mère adoptive, rapporte qu'à l'arrivée de Benjamin Co, elle avait relevé certaines cicatrices sur son corps.
La famille habitait dans le Nord, après ils sont venus à Lyon. Le papa est décédé d'un cancer. La maman est toujours en vie, elle habite aussi dans la région. Et ensuite, Benjamin Co a fait des études. C'était un élève brillant, il était très fort dans tout ce qui est logique, mathématiques, physique, etc.
Quelqu'un qui a rapidement brillé par ses qualités intellectuelles et scolaires. Il est quand même titulaire d'un master 2 et il a intégré une école de commerce à Dijon. En sortant major de sa promotion, il a rapidement obtenu un travail dans une entreprise comme contrôleur de gestion et il avait une vie essentiellement centrée sur le travail. La vie de l'accusé était d'une simplicité absolue. Hein. Benjamin Co, c'était pas d'amis, pas de petite amie. Une fois de temps en temps, une visite à sa mère. Mais il ne sortait pas finalement de cette activité sociale que l'on pourrait qualifier d'extrêmement limitée. La réalité a démontré que oui, il était effectivement discret, n'élevait pas la voix et autres, mais il était quand même très réactif par rapport au bruit que l'on peut générer dans un appartement, bruit auquel il était très sensible.
Benjamin Combe mène une vie plan-plan, sans vague, et il entend que ses voisins en fassent autant. Pendant le confinement, il devient très procédurier. Il dénonce toutes les nuisances sonores des voisins. Il écrit plusieurs fois à la régie immobilière qui gère son immeuble.
Finalement, il n'a de relation qu'à travers les plaintes multiples, parce qu'il est très procédurier, qu'il va déposer auprès de la régie, auprès de, etc., en indiquant qu'un tel fait trop de bruit, que c'est insupportable, et autres. Il est quand même relativement particulier et relativement asocial, puisqu'il va jusqu'à proposer de l'argent à la régie pour faciliter l'expulsion d'un locataire supposé être bruyant.
Monsieur Coe, il est très attaché aux règles et aux droits, et il faut finalement que tout soit carré et que tout aille dans le bon sens. On peut dire qu'il est procédurier, rigide et tout, mais c'est ce qu'on demande à tout le monde pour ne pas en arriver justement à des actes comme ça. C'est d'essayer de régler les choses quand un trouble du voisinage arrive, en envoyant des recommandés, en appelant les forces de l'ordre si c'est trop un soir, mais sûrement pas en descendant chez le voisin avec un couteau. Donc lui, il a essayé de passer par ces étapes qui sont, à mon sens, tout à fait normales. Et ce soir-là, c'était trop. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et c'est pour ça qu'il est descendu.
L'enquête de personnalité révèle que Benjamin Coe était un contrôleur de gestion à la vie très austère. Il côtoyait seulement ses collègues de travail et les membres de ses clubs d'échecs et de scrap.
Il est incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corba. Très vite, ce profil qui est complètement atypique et encore peut-être plus dans un milieu carcéral. Enfin, ça a été, à mon avis, très compliqué pour lui, même s'il ne s'est jamais, mais jamais plaint de sa détention.
Léa Forest, avocate de Benjamin Coe.
Il a été très vite victime de menaces, de violences, qu'elles soient morales ou physiques. Très vite, il a été placé à l'isolement. Et c'est sur sa volonté à lui qu'il a souhaité y rester tout le long de son incarcération. Isolement veut dire absolument aucun contact, des promenades qui sont dans une cour qui sont plus petites que des cours classiques et qui sont pas en communauté, donc on se balade tout seul, on vit tout seul et on ne voit personne à part les surveillants qui ouvrent la porte pour donner à manger. Il était même question à un moment donné qu'on le sorte de l'isolement parce que ça devenait dangereux finalement pour sa santé mentale, c'est la prison qui a voulu le faire, et moi j'ai été obligée conformément à son mandat d'intervenir pour qu'il reste placé à l'isolement.
3 ans après le meurtre de Romane Dufour, Benjamin Coe est renvoyé devant la cour d'assises du Rhône. Il a alors 41 ans.
Comment on fait pour préparer Monsieur Coe? C'est une question que je me pose toujours. Enfin, finalement, j'ai arrêté de me la poser parce que la réponse est simple, c'est qu'on ne le prépare pas. Lui, son état d'esprit avant les assises, c'est qu'il s'en fiche complètement de son sort, donc aucune raison de se défendre. Je pense que si l'avocat n'était pas obligatoire devant une cour d'assises, il y serait allé sans avocat. Après, je lui ai donné quand même 2-3 conseils, et je pense que les 2-3 conseils que je lui ai donnés n'ont absolument pas été respectés. Il a même fait tout le contraire pour saboter un peu mon travail.
Faites entrer l'accusé.
Il a une quarantaine d'années.
Éric Mazot, avocat général.
Ses vêtements n'attirent pas particulièrement d'attention. Il est handicapé visuel, il boite également. On ne remarque pas cet homme. C'est sa particularité, on ne le remarque pas.
Jean-François Julien, avocat de la famille de Romane Dufour.
Lorsqu'on arrive devant la cour d'assises, le président lui dit « Monsieur, vous pouvez enlever votre masque ». Il va refuser et il va presque engueuler le président en disant « Mais si vous avez envie d'attraper le Covid, vous, moi je ne veux pas ». Vous voyez le type de personnalité dans laquelle vous êtes. Vous avez quelqu'un qui est totalement effacé, qui va passer ensuite, qui peut passer dans un truc où il va vous engueuler parce que vous ne respectez pas une règle. Et lui, il estimait que le président de la cour d'assises ne respectait pas une règle, donc il lui dit « vous ne respectez pas la règle ».
Mesdames et messieurs, la cour.
Il a fini par m'écouter parce que j'ai pris à part à un moment une suspension d'audience et je lui ai dit que là, ce serait vraiment bien. Mais je lui ai toujours dit que c'était pour me faire plaisir et il le faisait. Et ça marchait que comme ça. Tout ce qu'il a fait pendant le procès d'assises que je lui ai conseillé, c'est parce que j'ai trouvé, je pense, le deuxième jour du procès, le premier jour, mais fin de journée, en lui disant « s'il vous plaît, faites-le pour moi, vous voyez, je rame un peu pour vous, je donne tout ce que j'ai pour vous, alors faites-moi plaisir ». Quand j'en parle maintenant encore de ce procès, j'ai l'impression parfois de parler contre lui, mais c'est justement tout le paradoxe avec M. Coe, c'est qu'en fait, pour le défendre, il fallait appuyer sur des points que lui ne voulait pas forcément entendre. Mais j'avais la liberté de le faire et c'est pour ça que je l'ai fait, parce que sinon je n'aurais jamais pu le défendre de cette manière-là et d'en parler encore aujourd'hui comme ça. Mais en tout état de cause, oui, c'était le défendre malgré lui. Il m'a mis des bâtons dans les roues, clairement, tout le long du procès.
Docteur Cantarino, qui était l'expert psychiatre, n'a pas déposé, je crois qu'il était en vacances. L'expert psychologue a déposé, il disait des choses extrêmement intéressantes. Malheureusement, on n'a pas pu développer. Pour tous les acteurs du procès, c'était extrêmement frustrant. Votre émission, c'est cette cote B, et cette cote B, on nous l'a volée pendant le procès d'assises.
Cote B12, expertise psychologique de Xavier Renaud. Si Benjamin Coe présente des défenses psychiques explicites de mise à distance de ses vécus émotionnels, on peut également s'interroger sur l'éventuelle nature autistique de certains de ses traits de fonctionnement interne. On note en effet dans le parcours de Benjamin Coe une difficulté communicationnelle et relationnelle durable associée à un fort isolement et un hyper-investissement intellectuel. Une désaffectivité qui peut être liée à des centres d'intérêt limités.
Une phrase qu'il a prononcée en réponse à une question du magistrat instructeur qui lui demandait « Mais pourquoi reprendre votre partie de Scrabble ?» Il a répondu « Que voulez-vous que je fasse d'autre ?» Et moi, à ce procès, je comprenais à plein l'expression « être réduit au silence ». Parce que c'est très exactement ça ce qui s'est passé. C'est glaçant. Cette jeune femme que l'on décrivait comme étant un vrai soleil, la vie, quoi, a été, à proprement parler, réduite au silence par quelqu'un qui s'est rassis à sa table, qui a repris sa partie de Scrabble et qui n'en a pas bougé alors que les sirènes de police retentissaient dans tout le quartier. L'expert psychologue avait retenu cette incapacité à gérer chez l'accusé une situation conflictuelle. La cour est restée un petit peu sur sa faim. J'ai fait quelques recherches. En tapant deux mots sur un moteur de recherche, assise et bruit, on s'aperçoit que énormément, en fait, de situations identiques amènent aux assises. Donc, vous avez divers titres que j'avais relevés dans la presse, un peu au débotté. Très nombreuses affaires criminelles, hein, je me relis, le pilote de quad faisait trop de bruit, le procès du meurtrier présumé commence, triple meurtre dans un hôtel, il faisait trop de bruit. Son voisin faisait trop de bruit, il l'a massacré à la batte de baseball. Excédé par le bruit, il tue son voisin à coups de fusil. Énervé par le bruit des travaux, un septuagénaire tue le propriétaire de son appartement. Un octogénaire poignardé à mort pour avoir demandé à son voisin brillant de se calmer. Sans pouvoir les quantifier, ce genre d'affaires, finalement, est assez fréquent.
Dès que quelque chose l'ennuyait, il était focus dessus. Il ne pouvait pas s'en détacher. C'est comme la goutte d'eau qui tombe et qui vous gêne au fur et à mesure, alors que personne ne va l'entendre, mais il y a cette goutte qui tombe et qui est lancinante et qui va vous taper sur le système nerveux. Il fonctionnait exactement comme ça, je suppose qu'il fonctionne toujours comme ça. C'est là, il entend cette musique. Au fond, je vous garantis que pour l'entendre, il faut avoir une ouïe très fine, mais ça le gêne, ça le perturbe. Il explique très bien en disant, moi, quand j'écoute la musique, pour voir si je ne gêne pas mon voisin, je vais sortir et je ferme la porte. Et c'est ce qu'il a déclaré devant la cour d'assises. Et ça vous explique tout.
Maître
Maître Forest, vous avez la parole pour la défense de Benjamin Coe.
Les éléments importants, je crois que ça a été de recentrer le débat sur ce dont on avait parlé, à savoir vraiment étudier les faits à l'aune de la personnalité de Monsieur Coe. J'ai été très frustrée des expertises sur le plan de sa personnalité et par mon inaction. Je l'ai regretté à la préparation du dossier parce que j'ai pas pris l'ampleur de cette expertise, notamment psychologique de Monsieur Renaud, qui m'émettait des points rouges sur d'éventuels troubles autistiques. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pudeur, de la honte et surtout de pas trouver l'utilité de parler de lui. Il n'y a pas d'utilité à ça et il est là pour être condamné. Il a quand même dit devant la cour d'assises, je sais que c'est pas possible parce que mon avocat me l'a dit, mais si je pouvais, je vous demanderais de me condamner à perpétuité.
Avant que la cour ne se retire pour délibérer, comme c'est l'usage, Benjamin Coe a la parole en dernier. Je mérite la perpétuité. J'ai détruit la vie de plusieurs personnes. Et si un jour la liberté m'est rendue, alors c'est que la justice est mal faite. Finalement, Benjamin Coe n'est pas condamné pour meurtre, mais pour coup mortel. Il écope de 14 années de prison. Et il ne fait pas appel. C'était Ondelat raconte version Code B. Guillaume Morianel, rédacteur en chef, enquête de Marion Douzet, réalisation de Guillaume Vasseau.
Retrouvez Ondelat raconte Code B tous les vendredis et samedis dès 6h sur votre plateforme de podcast.
Tous les vendredis et samedis de 14h à 15h, je vous le rappelle, Christophe Ondelat nous fait entrer dans la tête des criminels. Et aujourd'hui, samedi, il ouvrira le dossier d'instruction de Cécile Bourgeon. Vous savez, la mère de Fiona, dont la disparition avait ému la France entière en mai 2013. La nuit se poursuit dans un instant avec Pascal Praud et vous. Tous les jours de la semaine en fin de matinée, vous le savez, il vous donne la parole pour réagir sur l'actualité. Ce vendredi, le chroniqueur spécialiste de la royauté Bertrand Decker s'est venu nous voir pour parler du documentaire qui était diffusé il y a quelques heures sur C8, sur Charles III. Mais avant de se replonger dans l'émission, Dean Martin avec Everybody Loves Somebody sur Europe 1. Everybody loves somebody.
Somehow, something your kiss just told me, my sometime is now. Everybody finds somebody someplace. There's no telling where love may appear. Something in my heart saying my someplace is here. If I had it in my power, I'd arrange for every girl to have your charm. Then every minute, every hour, every boy would find what I've found in your. Although my dream was overdue. someone like you.
Iconique d'Europe 1, Everybody Loves Somebody, c'était Dean Martin qui a d'abord travaillé dans une mine de charbon avant d'être crooner. Il a été aussi croupier dans l'arrière-boutique d'un tabac mal famé. Il rêvait d'être boxeur et voilà, il est devenu chanteur. Des salles miteuses aux soirées de gala, on peut dire qu'il aura tout vécu. Bonne nuit à l'écoute d'Europe 1, c'est l'heure maintenant de Pascal Pro et vous. Vous qui avez la parole pour témoigner ou réagir sur des sujets d'actualité, séance de rattrapage pour vous, donc, qui n'étiez pas au rendez-vous.
Et on est avec Mickaël Poteau qui cette semaine...
Bonjour
Mickaël, puisque Géraldine Damon a pris quelques jours de vacances à Morlaix et notre petite équipe. Vous nous écoutez le matin de temps en temps ?
Pas de temps en temps, je zappe sur les deux.
Parce qu'à chaque fois, vous disiez que vous m'écoutiez tous les matins sur CNews, et quand je rencontrais Bruce Toussaint, vous lui disiez que vous l'écoutiez aussi tous les matins. Je vous connais.
C'est pas honnête, car c'était pas le même horaire en plus.
C'était le même horaire, Bruce Toussaint sur BFM à l'époque.
Alors là, j'écoute. J'écoute votre arrivée vers
9h30.
Ensuite, je bascule sur Thomas Hulin.
Oui.
Thomas, sauf cette semaine où j'ai basculé avec Jean-Pierre.
Basculer avec Jean-Pierre.
Tu pourrais pas faire autrement. non, parce que culture média, c'est notre métier quand même.
Bien sûr. On apprend des choses. Mais c'est vrai que vous regardez tout, vous écoutez tout. Alors je salue Laurent Tessier qui est à la rédaction en chef de cette émission. Monsieur Julien Blanc qui
bonjour
est à
Pascal,
la réalisation.
Bonjour
Julien. Monsieur Florian Karasoumaïan qui est à la programmation.
Bonjour Pascal.
Et puis cet homme qui est exceptionnel, mais que vous connaissez désormais, qui est Monsieur Boulouk, Monsieur Olivier Guénec, qui n'a qu'un livre dans sa bibliothèque, et c'est un livre de Michel Drucker.
Mais c'est vrai. Le seul livre que j'ai lu de ma vie, c'est un de vos livres, Michel.
Donc, c'est lequel ?
Il faut du temps pour rester jeune. C'est le seul que j'ai lu.
Il y en a un autre en préparation.
C'est-à-dire que les gens ici sont recrutés sur leur culture littéraire. Comme vous l'avez compris.
Pascal, quand même, félicitations.
Oui, vous êtes.
J'ai appris, vous allez acheter le groupe.
Je vous ai beaucoup écouté, et l'un et l'autre. Et je disais à Jean-Pierre Foucault ce matin, quand je suis passé le voir avant l'émission, je vous ai écouté, vous, dans les années 70, avec deux émissions que je trouvais formidables, Les Rendez-vous du Dimanche, et une émission que vous faisiez ici qui s'appelait Studio 1. Mmh. Et je la trouvais incroyablement moderne parce que c'était une émission de journaliste que vous faisiez à l'époque.
Oui. Mais vivement dimanche aussi.
Et oui, mais après, bien sûr, mais c'était très moderne dans les années 70, sans doute, parce que vous sortiez de Guy Lux, qui faisait de la variété pure, ou Jean Noël, qui avait fait de la variété pure, et vous apportiez un regard un peu plus journalistique. Qu'est-ce que Michel Drucker a que vous n'avez pas, Jean-Pierre Foucault ?
La longévité, il a démarré avant moi, et il a surtout... il a surtout une formation sportive et journalistique que je n'ai pas. Moi, je ne suis pas journaliste, moi je suis Jean Noël ou Guy Lux, si vous voulez. En revanche, Michel Drucker, fondamentalement, il est journaliste. Mmh. On le voit d'ailleurs dans les entretiens qu'il a menés, que vous venez de citer.
Mais vous trouvez que journaliste, ça veut rien dire, parce que ça s'apprend pas, c'est un état d'esprit d'une certaine manière. Ouais. Évidemment que le travail que vous avez fait, notamment dans les interviews, est un travail de témoin, on appelle ça comme on veut. Parfois c'était journaliste, parfois c'était effectivement peut-être plus monsieur loyal, mais il y avait forcément beaucoup de...
Certainement, mais on a proposé le 20h à Michel ce qu'on ne m'aurait jamais proposé.
Oui.
Donc c'est ça la différence.
C'est vrai. Et qu'est-ce que Jean-Pierre Foucault a que vous n'avez pas, Michel Drucker ?
Il sait animer des jeux et moi pas. Je suis incapable d'animer un jeu, je soufflerai la réponse. Donc je serai foutu dehors tout de suite. Lui, il sait faire ça. Et moi, j'ai pas oublié l'Académie des Neufs. Et puis, qui venait des millions ? Jean-Pierre, attention. Jean-Pierre, il a fait la radio dès 66. Moi, je suis un recordman peut-être de télé, mais lui, il a commencé la radio en 66. 66, on l'oublie.
Michel Drucker, est-ce que c'est votre dernier mot ?
C'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Michel avait fait un formidable spectacle que j'ai vu. Vraiment, j'ai été bluffé parce que j'étais allé en disant, je le dis honnêtement, et je trouve que c'est formidable ce que vous aviez fait à Marigny. Est-ce qu'un jour, vous imaginez, vous, Jean-Pierre, raconter... Ce matin, je suis passé à 8h30 avec
vous. Vous avez raconté deux, trois trucs, oui.
Je vous assure, moi j'aime bien ça, parce que j'aime bien... Souvent, Michel me dit...
Ce qu'il a comme souvenir, Jean-Pierre.
Voilà, souvent, Michel me dit, toi, t'aimes bien parler... C'est vrai, mais je vous assure, ce matin, on était une dizaine autour de vous. Tout le monde écoutait ce que vous disiez.
J'ai fait un bouquin qui s'appelle « La couleur des souvenirs » il y a 10 ans, je raconte toutes ces aventures.
Oui, mais vous avez rencontré... Parce que les rencontres, c'est pas rien, les rencontres. Alors, quand vous me dites tout à l'heure, j'allais chez Serrault, qui préparait tout, par exemple.
Tout, les émissions, il fallait aller chez lui à Neuilly. Je ne sais pas si c'était comme toi, Michel. Mmh. On allait à Neuilly, il me disait, qu'est-ce que je vais faire? Comment je rentre? Exactement. Qu'est-ce que tu vas me poser comme question? Ceci, ouais. Cela. Mmh. Donc c'était de l'improvisation très préparée.
Et puis Jean-Pierre, il y a des souvenirs douloureux dans sa vie. Jean-Pierre, son papa, tout ça. Enfin,
mais de raconter
c'est une vie très riche,
sur
avec
scène.
Avec des hauts et des bas.
De raconter ça sur cette... Vous me racontez également Fernandel, ouais. Qui un jour voit un électricien.
Non, c'est ça, c'est que Fernandel avait horreur qu'on lui demande « faites-moi rire ». Et il y a toujours un jour, il y a un bonhomme qui s'est approché de lui. « Oh, monsieur Fernandel, je suis content de vous voir. Faites-moi rire !» Fernandel lui dit « Quel est votre métier ?»« Électricien, posez-moi une prise. » Voilà, si c'est pareil. Hein.
Je peux dire un mot sur Fernandel ?
Oui, bien sûr.
Sur le vieux port, Marcel Pagnol, on a fêté les 50 ans de la disparition de Marcel Pagnol. Et Pagnol, il était un peu soupolé de temps en temps, hein, un petit coup de rosé de trop. Et à table, il était avec Fernandel, avec Rému. Et Pagnol, qui était un peu énervé, il dit à la fin du repas, il dit, Fernand, je vais te dire depuis longtemps ce que je vais te dire. T'es un vrai con, devant Rému. T'es un vrai con. Fernand, content d'un thème, vrai con. Et je resterai pas plus longtemps à table avec un con comme toi. Et il s'en va. Oh, devant Rému. Fernandel rentre chez lui au bord des larmes. Tu sais ce qu'il m'a dit? Marcel m'a traité de con. Et sa femme dit à Fernandel, écoute, Fernand, tu le connais, il est soupolé, il est comme ça. Il va s'excuser, il s'excuse toujours. 3 heures après, arrive un coursier. Je te l'avais dit, Fernand. C'est tout, hein? C'est tout, Marcel. Marcel, Fernand, retrouve ce sourire chevalin qu'on connaît bien. Il ouvre l'enveloppe soulagé et il lit ceci. Tout à l'heure, mon cher Fernand, j'étais traité de con devant Rému, de façon un peu brutale. Je voulais simplement te le confirmer par écrit.
Mais la question reste posée quand même. Cette vie particulière, forcément, de souvenirs, lorsque vous l'aviez vu sur scène, Michel,
bien sûr que je l'ai vu sur scène.
Et c'était vraiment
bien
très sûr, réussi avec en plus des images d'archives et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a tenté d'aller directement au public?
L'idéal, ça serait que les tontons flingueurs, c'est-à-dire que Michel, moi, qui d'autre.
Il a fait une apparition comme acteur, lui.
Je sais pas, Deniso, l'énergie. On se met tous les 4 ou tous les 5 sur scène. Voilà, on fait des tontons flingueurs et on raconte.
Alors, les noms, Michel Deniso a une immense carrière et William aussi. Mais convenez que le lien que vous avez tous les deux, c'est encore autre chose. Parce
non,
que
mais
Michel...
je peux pas arriver après Michel Drucker, c'est pas possible.
C'est on un lien. Si...
Et puis on est à Provence. Ouais. Mes parents reposent en Provence. Moi, j'ai une histoire en Provence. Mes parents reposent en Provence dans les Alpes. Je suis devenu aussi quelque part un supporter de l'OM parce que Pascal, vous l'avez dit ce matin, si on veut connaître Marseille, on va au Stade Vélodrome une fois. Le Stade Vélodrome en fusion, on s'en souvient toute sa vie. Et moi, je suis allé déjà au Stade Vélodrome, Jean-Pierre aussi. Il se passe quelque chose à Marseille.
Je suis d'accord avec vous. On va marquer une pause.
Moi,
quelques
j'ai
secondes.
Une qualité que vous n'avez pas, Michel aussi. J'ai un petit bouton, un potentiomètre. L'été, je peux baisser la mer et monter les cigales.
Bon, en tout cas, c'est vrai que pour cette jeune génération, et puis après, on va vous libérer. Je vous disais tout à l'heure, j'ai le sentiment que notre génération est un peu plus faible. C'est le sentiment que j'ai. Je l'ai cité tout à l'heure. Alors, la télé était sans doute différente, mais je crois que vous avez grandi dans cette télévision en 76. C'était la télévision de Marcel Julien qui fait la chaîne. Bon, c'est Marcel Julien qui est PDG d'Antenne 2. Aujourd'hui, c'est pas les mêmes gens qui dirigent. Forcément, c'est un homme de culture. Il avait écrit Les Rois Maudits, etc. Oui. Et tous les gens que
et
j'ai
Pierre
cités.
Desgroupes, quand même.
Et Pierre Desgroupes, mais tous les gens que j'ai cité Pivot, Chancel et tant d'autres, j'ai l'impression que cette génération-là qui nous a donné, moi je regardais beaucoup la télé quand j'avais 15 ans parce que j'avais envie d'en faire, en fait j'avais envie d'appartenir à ce monde-là, j'ai jamais eu de problème d'orientation, je voulais faire ça.
Ce qui est miraculeux c'est que ça continue, c'est pour ça que je termine mes émissions avec une phrase de Lelouch qui appartient à Victor Hugo, les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues.
C'est une phrase, mais est-ce que c'est vrai?
Vous avez écrit un jour dans notre papier dans JDD qui est tellement bien écrit que finalement, et vous avez raison Pascal, la passion fatigue pas. Et non, mourir sur scène, c'est la chanson de Dalida et je suis d'accord. Je veux bien mourir sur scène.
Bah, le plus tard possible, comme disait Thierry, notre ami Thierry. Il est 11h14, on marque une pause, on vous garde encore quelques petites minutes et puis ça serait bien peut-être qu'un auditeur, monsieur... Alors je vois que toute la maison Europe 1 est là. Alors tout le monde est venu.
Tout le monde est arrivé.
Ils sont arrivés.
C'est ce que disait Pagnol qui n'aimait pas les critiques. Il parlait d'une pièce, il dit « Une pièce, il y avait un succès considérable. »
tout le monde est venu sauf le public.
Ça, c'est formidable.
C'était pas mieux.
Non, mais ça, c'est formidable. Et ben, c'est la famille Europe 1 qui est là. Et c'est vrai que tous les deux, en plus, avaient incarné à un moment ou un autre de votre carrière Europe 1. Ah, oui. C'est vrai que Studio 22, c'était ou Studio 1.
Et puis
Studio
après, 1. Fait entrer.
Moi, j'ai trouvé ça formidable, Studio 1.
Mais moi, les 5 ans que j'ai passé, c'était formidable. Oui. Il y avait quelques inconnus qui
s'appellent. Avec Maryse, Studio 1,
et Julie. Je pense à Julie.
Bien sûr.
Et puis Jérôme Commandeur était là. Il y avait Madénian, il y avait Mathieu Noël, il y avait Camille Combal.
11h15.
C'est magnifique.
Vous avez froid? Vous avez froid, Michel?
Ben, depuis que j'ai quitté l'hôpital, j'ai froid tout le temps.
Bon,
bah, écoutez, mais quand je suis à Europe, ça réchauffe.
11h-13h sur Europe 1, Pascal Praud et vous.
Et je pense que vous faites très plaisir, vraiment, aux auditeurs.
Vous êtes sûr?
Oui, j'en suis sûr, bon. Parce que d'abord, les gens vous aiment et ils ont envie que vous vous aimiez ensemble. J'ai toujours remarqué ça. Le public n'aime pas que dans nos métiers, les gens se détestent.
Non, on s'apprécie, bien sûr.
On se connaît depuis très longtemps. Notre film de chevet est le même. C'est Network de Sidney Lumet.
Exact, c'est vrai.
C'est l'histoire, il y a
40 ans de la télé d'aujourd'hui.
Peter Finch, Faye Dunaway, ouais. William Holden, Robert Duvall, tout est dit. Dans les années 5. Tout est dit sur la télévision d'aujourd'hui. Ouais, tout.
Exactement.
Éric veut vous parler. Et c'est bien d'avoir un petit échange avec les auditeurs. On est ensemble jusqu'à 11h27, 11h28. Et après, on vous libère ses propos.
Merci beaucoup.
Bonjour, Éric.
Bonjour, Éric Chapeau-Soun de la Chapelle Saint-Mémin.
Bonjour.
Jean-Pierre Foucault est venu avec Éric Chardin en avril 67 chez moi, à mon domicile, au bord de la Loire, pour animer une Pepsi Boom. Je ne sais pas s'il s'en souvient.
Sur Europe 1. On avait en effet.
Sur Europe 1.
Maryse était la réalisatrice de l'émission et nous allions tous les samedis soirs chez un particulier. On amenait le buffet, c'est-à-dire de quoi manger. On amenait la musique, de quoi danser et on faisait la Pepsi Boom entre 23h30 et 1h du matin. C'est incroyable.
Avec Éric Chardin ce soir-là.
Mais oui, parce qu'il y avait, un invité chaque samedi. Ah. Ouais. Et j'ai une petite anecdote, si vous le permettez, monsieur. C'est que pendant mai 68, à un moment, Pompidou reprend le pouvoir à la radio. Il parle, c'était le soir. Oui. Il dit qu'il faut que ça cesse, il faut que les universités soient à nouveau ouvertes, que tout le monde retourne au travail. Et à la fin, la speakerine dit, c'était le Premier ministre. Et maintenant, avec Jean-Pierre Foucault, Pepsi, ça fait boum. C'était assez sympathique.
Et j'ai fait ma thèse de médecine avec Jacques Drucker à Tours. Et sans lui,
qu'est-ce que ça me touche, vous parliez de mon frère qui est à Tours, mon frère Jackie, interne des hôpitaux, immense médecin, papa d'une grande comédienne qu'elle est à Drucker.
Oui. Et Michel, vous ne vous souvenez pas de moi, mais je vous avais remis en contact ainsi que votre frère Jean avec Roger Martel.
Oui.
En avril 94, je crois. Et vous, j'avais accompagné aussi mon copain Renaud Séchant votre émission et vous m'avez présenté l'ex de Mick Jagger, là, comment elle s'appelait, qui chantait
pas Bianca,
c'est Morphine,
Bianca non, Jagger,
l'anglaise.
Marianne Faithfull.
Marianne Faithfull, oui. Bravo.
Ouais.
Je suis un peu surpris parce que vous avez des souvenirs avec Michel Drucker, avec moi, aucun avec Pascal.
Non.
Si. Alors.
Si je l'ai rencontré une fois, ça s'est très mal passé.
Non, avec Pascal Praud, j'ai essayé de le contacter parce que Louis Merlin, quand j'étais petit, m'avait dit si un jour tu veux travailler à Europe 1, alors moi j'avais 4 ou 5 ans,
Louis Merlin, tu m'appelles. Une légende.
Ouais.
C'était un ami de mon père.
Mais quel est le rapport avec Louis Merlin et moi?
Mais
est-ce que vous êtes l'enchanteur d'Europe 1 maintenant?
Non, c'est gentil.
Alors, le rapport avec vous, c'est que Louis Merlin m'avait dit quand j'étais petit, si un jour tu veux travailler quand tu seras grand à Europe 1, appelle-moi. Ben, il est mort depuis longtemps et j'ai essayé de vous contacter ces derniers mois pour vous proposer des chroniques pour CNews ou pour Europe et puis tout votre entourage fait blocage. Alors,
ben écoutez, je ne les ai jamais eu parce que si je comprends bien, vous êtes plutôt
Pédrin, parce que
vous êtes plutôt médecin. Vous êtes plutôt médecin.
Oui, mais je suis médecin, j'exerce pas, je m'intéresse à la typographie, à plein de sujets qui vous intéresseraient, qui intéresseraient des auditeurs ou des téléspectateurs. Oui, pourquoi il y a des points sur les i, d'où vient le mot saboté, d'où vient la lettre A.
Je pense qu'on va faire un malheur avec ça. Je pense que je pense qu'on va gagner des téléspectateurs. La typographie, vous avez raison.
La prochaine vague de sondage, ça vous jette en pleine dent, là.
Et je comprends pourquoi on est allé chez vous, si vous étiez proche de Louis Merlin, on a dû nous dire, il faut aller là-bas.
Merci Eric. Je disais tout à l'heure, mais moi j'ai un petit travers, je suis un peu nostalgique, c'est vrai, dans tous les domaines. Donc j'ai l'impression que le cinéma français, il y a eu un âge d'or 60, 70, 80, 90, que c'est plutôt moins bien. J'ai l'impression que les stars, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. J'ai l'impression qu'en politique...
Si on dit ça, on est des vieux cons.
Les gens que j'ai connus en politique, qui m'ont fait rêver, si j'ose dire, de Giscard à François Mitterrand, etc., il y a moins aujourd'hui cette qualité-là. Et même dans nos métiers, je trouve que ma génération est plutôt faible. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus, Bouvard, Chancel. Alors, c'est une génération, vous avez tous pris le pouvoir au milieu, au début des années 70. Mmh. La génération d'avant vous, c'était la génération qui avait fait la guerre, qui s'est arrêtée au début des années 70. Mmh. Donc, ces gens-là avaient 65 ans, on arrêtait plutôt à l'époque.
Bague,
exactement, ils avaient fait la guerre.
Bien sûr.
Et là, il y a une génération incroyable, avec des gens comme Moujotte, qui ont 30 ans, qui vont prendre le pouvoir très tôt.
Bien sûr.
À Europe, 30 ans, et le Cabache, 30 ans, Pierre Lescure.
C'était déjà la Dream Team d'Europe. Hein.
Pierre Lescure, Jean-Michel Desjeunes. Donc je voulais savoir, sans
puisque
langue
tu parles
de bois,
c'était la Dream Team d'Europe 1.
Oui, c'est, oui, alors il y en avait beaucoup effectivement d'Europe, mais bon, sans langue de bois, quel regard portez-vous sur la génération des gens qui sont aujourd'hui à la télévision? Je commence par Jean-Pierre.
Par Michel plutôt.
Par Michel.
Non, objectivement, il y a des gens très très doués, très doués.
Si, bah, bien sûr.
Objectivement. Et je ne dis pas ça parce que je suis au service public, mais Léa Salamé, c'est une pointure quand
c'est
même.
Vrai. Hein. C'est vrai.
C'est
je
une
suis
pointure,
d'accord avec vous, bon. Mais c'est une des rares stars de nos métiers aujourd'hui.
Non, mais les deux révélations dans les talk shows de la télé ces dernières années, c'est Cyril Hanouna et Pascal Praud. Non, mais je sais de quoi je parle.
Michel. Il n'a pas tort.
Cyril Hanouna et Pascal Praud, vous êtes les deux révélations de ces dernières années, que vous vouliez ou non.
Il ne subit jamais aucune critique de personne.
Vous êtes sans doute clivant, comme on dit, mais vous existez. La preuve, lui réussit, vous réussissez.
C'est très gentil, Michel.
Non, mais c'est la vérité.
Dans les gamins qui travaillent beaucoup, et Cyril Ferraud est extraordinaire.
Cyril, voilà. Alors, ça, c'est
très doué, Cyril Ferraud.
Puissance montante, oui, bien sûr.
Très doué. Tous les après-midi, je ne dis pas ça parce que c'est service public, Faustine. Elle fait bien le boulot, Faustine.
Bollard, c'est très performant.
Ça représente les dimanches, les quotidiens d'aujourd'hui, madame, tout
pas,
ça.
Donc, il ne faut pas être nostalgique.
Donc, je pense qu'il ne faut pas être pressé. Mais... La génération, elle monte, elle s'installe petit à petit.
Alors, est-ce qu'ils vont durer longtemps? C'est autre chose.
Je me permets de dire que, quand même, la dernière grande vague d'animateurs, avec des gens comme Arthur, Nagui,
Courbet,
c'est il y a quelques années. Je me permets simplement de dire ça.
Mais vous êtes chez vous.
Il y a des jeunes animateurs. Camille Combal est un jeune animateur, mais... il ne me semble pas que c'est Delarue pareil, je pourrais citer Delarue qui était peut-être le plus doué de ma génération.
Laissez-les mûrir.
Bon, ben, on va vous laisser mûrir aussi.
Vous félicite, vous avez dit 27, il est 27.
Ben oui, donc là vous partez pour... donc si j'ai bien compris, d'ailleurs vous quittez la France, quelque part. Michel, le programme, vous faites... Alors vous ferez les Jeux quand même, vous serez présent sur les Jeux ou pas?
Oui, je vais être dans une émission qui va être annoncée bientôt à un prime time avec Laurent Luyat, quelques jours avant... la cérémonie d'ouverture, et puis je serai avec Lorlia et Léa Salamé pour le premier talk show.
Et vous repartez avec Vivement Dimanche la saison prochaine.
Je commence le 15 septembre, et avec une demi-heure de plus. On m'a demandé de faire plus long.
Bah, écoutez,
d'habitude, on nous dit fais plus court et on vous fout dehors. Là, on dit tu restes et tu fais plus long.
Et Jean-Pierre, les projets professionnels?
Alors, moi, je vais fêter ma 30e Miss France. Vous rendez compte, 30e Miss France. Pascal. C'est-à-dire que j'aurais côtoyé en 30 ans.
Il faut qu'il refasse de la radio.
Mais oui, mais je suis sûr
j'aurais
qu'il a
côtoyé
envie.
En 30 ans 1200 Miss France, et dans ce téléphone que j'ai là, j'ai 1200 numéros de téléphone que je peux vous passer éventuellement.
C'est entendu, mais par exemple, quelqu'un vous proposerait aujourd'hui une quotidienne radio. Vous dites
Je passe sous un tunnel, je ne vous entends plus, Pascal.
C'est trop contraignant.
Non,
sérieusement.
Sérieusement, non.
Mais une hebdo, par exemple?
Je ne sais pas.
Vous ne savez pas.
Merci d'avoir posé la question.
Non, mais
depuis ce matin, je lui dis refait de la radio.
Alors, vous avez pris du plaisir, c'est
énormément,
le plus important.
Voilà.
Et puis c'est sympa d'être avec des jeunes gens.
Exactement.
11h-13h sur Europe 1.
Pascal Praud. Dites-nous dans quel état sont les routes près de chez vous, entre les nids de poules, les chaussées déformées, des marquages au sol à peine visibles. 20% seraient en très mauvais état. En 2012, la France était en tête du classement des meilleures routes d'Europe. Aujourd'hui, nous avons perdu plusieurs places. Vous roulez régulièrement, vous avez vu nos routes se dégrader, vous vous sentez peut-être en danger, venez témoigner au Standard Europe 1. 30% des accidents mortels étaient liés en 2022 au mauvais état. Je vous propose qu'on écoute Yves Caraille, les porte-parole de l'Association de défense des automobilistes Mobilité Club. Il était interrogé pour Europe 1 par Laurent Tessier.
Dégradation régulière depuis plusieurs années. On est passé, il y a un classement qui est fait, on est passé de là des 5 premiers ou entre la 15e et 20e place. Donc ça, c'est mesuré, c'est concret. C'est un mauvais calcul parce que quand on les entretient pas, quand il faut les refaire, ça coûte plus cher. Donc les collectivités qui manquent d'argent, on manque d'argent partout, essaient d'économiser là-dessus. Mais c'est un mauvais calcul, et aussi c'est dangereux pour la sécurité routière parce que des nids de poules, des virages qui peuvent amener une voiture qui se déporte parce qu'il y a un gros nid de poules, c'est pas bon pour la sécurité routière. Donc c'est pas bon du tout. Et on dit toujours que la route, le plus d'un million de kilomètres de route qu'il y a en France, c'est un patrimoine qu'il faut entretenir.
À 11h35, nous sommes...